L'épopée de 17 moines bénédictins originaires des Aldudes, racontée par Michael et Ramos P. Bonjour Michael et Ramos P, bonjour à tous les auditeurs. La dernière fois, vous nous aviez expliqué dans quelles conditions bien difficiles les religieux de Belloc ont réussi finalement à fonder le premier monastère bénédictin d'Amérique latine.
Oui, le monastère de Niño Dios, fondé dans des circonstances effectivement très difficiles, va peu à peu prendre racine sur la terre argentine. Et il devient même une abbaye en 1927, sous la direction du baïgoriard Salvador Laborde.
Et les moines des Aldudes en font bien évidemment partie.
Oui, trois bénédictins des Aldudes vont y exercer leur apostolat et y mourir. Nous avons voulu en savoir plus sur eux et le père archiviste de l'abbaye de Niño Dios nous a très gentiment envoyé les biographies des trois Aldudards. Alors je vais commencer par Odon Oxarart de la maison Marquichaina. Sa notice nécrologique commence par rappeler qu'il s'agit du premier moine décédé à Niño Dios en 1926. Il est doté d'un caractère jovial, chaleureux et spontané. Toutefois, des ennuis de santé vont retarder quelque peu son ordination sacerdotale, mais à peine ordonné, le voilà qui rejoint la fondation de Niño Dios. Attiré par les plus pauvres et les plus humbles, on lui confie la charge pastorale des chapelles disséminées à travers les immenses territoires, y compris les îles difficilement accessibles de cette région, très justement appelée Entre Rios. Il arpente le moindre coin, bravant tous les dangers, tous les chemins, les plaines désolées par tous les temps, à cheval, en barque. On lui donne d'ailleurs le surnom de Gaucho, ou El Obispo de las Islas, l'évêque des îles. Pas un habitant aussi éloigné et pauvre qui n'ait régulièrement reçu sa visite. Et la notice biographique dit également ceci: il ne s'embarrassait nullement de formules diplomatiques convenues et préférait parler librement, sans convenance superflue, mais toujours sur le registre de l'humour. Aujourd'hui, on dirait qu'il savait parler cash. L'un ne savait ainsi s'adresser aussi bien que lui aux populations locales. No tienen otro como el padre Odón para tratar con la gente de la campaña. N'avait personne comme le père Odón pour communiquer ainsi avec les gens de la campagne. Mais les soucis de santé font leur apparition et son cœur fragile l'oblige à rester au monastère. Il meurt en toute lucidité, entouré des moines de la communauté, non sans avoir prié Notre-Dame de Lourdes, précise donc la chronique du monastère de Niño Dios. Alors après Odón Oxarart, nous parlerons de Fermín Hospital, de la maison Coxcartia. Alors nous en avons déjà parlé la dernière fois, puisque c'est lui que Belloc envoie, avec le frère Gérard Aran de Lacar, un éclaireur en 1898, pour préparer la venue des 25 religieux et postulants de Belloc en Argentine. La revue El Mensajero de l'abbaye de Niño Dios, qui lui consacre un article, souligne d'emblée sa principale qualité, la modestie. Jamais nous ne l'avons entendu raconter la moindre anecdote concernant sa vie. Il aimait écouter les autres, les faire parler, jamais il ne disait de mal de notre. Et il préférait insister sur ses qualités. Un curieux qui lui demandait quel était son rôle au sein du monastère, il répondit brièvement ceci: ouvrir les portes et fermer les fenêtres, abrir las puertas y cerrar las ventanas. Et c'est tout. Catéchèse, prédication en disponibilité auprès des fidèles sont également soulignées. En l'an 1900, une révolution éclata à Victoria. Il se fit remarquer par sa bravoure et son souci de préserver la vie de chacun. En 1907, une autre révolution éclata à Itati. Les révolutionnaires assiégés par les forces gouvernementales trouvèrent refuge dans la maison du père Fermín. Il doit s'interposer. On exige la reddition des révolutionnaires. Fermín Hospital répond, ces hommes ont trouvé refuge dans le sanctuaire de la Vierge, et ils sont donc chez moi. Je ne peux vous les rendre sans de solides garanties. Le chef de l'armée gouvernementale lui répond, nous ne sommes pas des assassins, et je m'engage à respecter leur vie. Les rebelles lui font confiance et se rendent. Tous ont respecté la parole prononcée, et le bain de sang est évité. La chronique le concernant ajoute également la joie qui émanait du père Fermín Hospital. Frappé dès 1917 d'un AVC, qui le diminuait considérablement, il n'en demeurait pas moins habité par son humour. Modestie, courage, joie, sérénité, piété. Voilà le père Fermín Hospital. Alors après avoir été curé, parroco de Victoria, il se retire à l'abbaye où il rend bien des services. Et il meurt d'une crise d'AVC en 1942, alors qu'il était en train de célébrer la messe. Quelque temps auparavant, il avait rédigé ce qu'on peut considérer comme son testament spirituel. « Bien que je souffre, que je sois diminué, tout le monde me témoigne son affection. Oui, je me sens heureux. Vous êtes encore jeune, faites en sorte d'être bons les uns envers les autres et demeurez toujours dans la joie, et ainsi vous goûterez la vie et tout ce qu'elle vous procure. » Après lui reste encore un bénédictin des Aldudes, le père Felipe Ardanz de la maison Soldadoña. Souvenons-nous qu'il fait partie des 25 premiers religieux venus fonder le monastère de Niño Dios. Il en sera même supérieur après le retour en Europe du père Alphonse Uricariet de Baigorri. Le bulletin « Mensajero de las Animas » de l'abbaye de Niño Dios lui consacre pas moins de 3 numéros. Il est précisé qu'il est né dans une famille modeste, auprès de laquelle il comprend qu'en renonçant à l'abondance de biens matériels, on accède à la profusion des biens spirituels. Habitué à vivre à la dure, il n'aura pas de mal à s'habituer aux très dures conditions de vie de la province d'Entre Ríos. À 40 ans, donc lorsqu'il arrive en Argentine, il apprend l'espagnol. Et il exercera l'essentiel de son ministère comme aumônier de l'hôpital de Victoria, après avoir donné bien des missions, y compris à Montevideo, en Uruguay. Alors ce n'est pas visiblement un grand intellectuel, mais il sait s'exprimer de façon claire, sensible et forte. Sa sincérité et son exemplarité font le reste. On cherche sa compagnie tellement ses bons mots et ses histoires détendent l'atmosphère. Les malades qu'il visite inlassablement apprécient sa proximité et sa simplicité. Dígame, usted cuando duerme, está despierto? Duerme con ojos cerrados? Dis-moi, quand tu dors, est-ce que tu es réveillé? Ou quand tu dors, est-ce que tes yeux sont fermés? Alors les malades, bien sûr, ils rigolent, la glace est rompue. Rien ne l'empêche de se rendre au chevet d'un mourant, ni inondation, ni nuit noire, ni rien du tout. Mais peu à peu, atteint de surdité, il doit se résoudre à se retirer dans l'abbaye. Il a presque 95 ans, c'est le dernier moine de Belloc encore vivant. Il rend son dernier souffle, entouré et vénéré par les frères, et comme le raconte son biographe, son âme s'envola vers Dieu, qu'il avait servi et aimé toute sa vie. Le couvent se remplit alors de silence et de prière. La cloche du monastère entonna un chant triste. Nous sommes en 1954, 78 ans après son départ de sa maison natale, Soldadoña des Aldudes. Et comme ses compatriotes, et ceux venus de Belloc, il est enterré au cimetière de Niño Dios en Argentine.
Ce sont finalement des figures assez semblables que celles de ces trois moines.
Oui, c'est vrai. Ce qui me frappe, c'est leur simplicité et leur proximité auprès des gens simples, avec qui ils savent nouer des liens profonds et sincères. Les trois ont fait merveille dans les missions qui leur ont été confiées. Comme on dirait aujourd'hui, le casting était parfait. Et pour rajouter encore une citation du pape François, c'était des vergers qui sentaient l'odeur de leurs brebis.
Après l'Argentine, nous revenons à Belloc.
Pas du tout, Alexandre. Nous allons suivre trois autres bénédictins des Aldudes, mais cette fois-ci à Jérusalem, où ils sont appelés avec d'autres pour une mission aussi exaltante que compliquée. Suspense.
Rendez-vous donc la prochaine fois à Jérusalem. Un grand merci à vous, Michael et Ramouspé, et à tous les auditeurs pour leur écoute.